les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Pour la première émission, 7 d'entre nous se sont retrouvés pour vous présenter l'idée et la démarche de ce collectif.
Donc on est un collectif qui s'appelle Les Philosophes Publics, un jeune collectif puisqu'il est né et il est toujours en train de se faire en janvier de cette année. Voilà, je crois que le motif principal c'était déjà d'être un collectif, donc de sortir de nos individualités et nos solitudes violentées par à la fois les attentats et par la montée du Front National à Marseille et en France. Notre outil ou notre matière, c'est la philosophie. Et il nous semblait que faire sortir la philosophie de l'espace où il est institutionnellement, c'est-à-dire en classe de terminale, avait une sorte d'urgence. En tout cas, on l'a ressenti comme ça. Et c'est comme si ce qui nous avait réunis jusqu'à présent, c'est-à-dire de parler de la cité, du monde, autour d'une table, on avait envie de l'expérimenter en dehors. Donc voilà, Je passe la parole à Samy.
Oui, cette expérience, donc ce collectif s'est monté d'abord au départ avec des perspectives pédagogiques, parce qu'on avait commencé par faire des réunions de collègues de philo pour discuter de pédagogie, on se faisait des réunions. Et face aux événements, face à la brutalité actuelle, politique, etc., on a eu envie d'agir et d'aller voir dans la rue, dans l'espace public, quelle était notre place, ce qu'on avait à y faire, ce qu'on pouvait y faire, et surtout peut-être la lassitude d'entendre des discours terribles, injustes, injustifiés, et qu'il faut clarifier absolument.
En effet, oui, dans ce collectif, on a quand même l'occasion d'agir en tant que philosophe, puisque notre compétence de professeur de philosophie est quand même celle qui consiste à s'occuper de la signification des mots. Or, il y a véritablement un problème concernant le maniement des mots dans l'espace public, et on s'est senti interpellé par cette nécessité de contribuer à les redéfinir, ou en tout cas à faire en sorte que personne ne puisse s'approprier de manière exclusive leur signification, leur sens, et que dans ce travail de collaboration à la distribution du sens et à la circulation du sens, nous soyons le plus impliqués possible, et cela a aussi eu, pour chacun de nous, l'effet de nous sortir effectivement de cette impuissance dans laquelle nous sentions finalement relégués. Et ce collectif a tout de même aussi cette vertu de nous faire sentir utiles.
Oui, alors l'idée de collectif, c'est aussi d'intervenir dans des lieux où on n'intervient pas forcément d'habitude, puisque nous enseignons la philosophie, et puis certains d'entre nous ont l'habitude d'intervenir dans des bibliothèques, dans des musées, dans des cinémas d'art et d'essai. Mais en fait, on s'est dit, il faut aussi sortir de cet entre-soi et aller vers des populations qui sont moins familières des lieux de la culture, qui ne viennent pas forcément spontanément vers nous, et qui sont peut-être dans un encore plus grand désarroi que ce que nous le sommes, même si nous le sommes. L'idée de créer ce collectif, c'était aussi de nous rassurer entre nous, d'une certaine manière, de voir qu'on était capables d'élaborer entre nous un discours qui ne soit pas submergé ou par les affects ou par l'idéologie, justement. Mais c'était surtout cette idée d'aller vers les gens, d'où le terme d'ailleurs de philosophe public. Pourquoi on s'est appelé philosophe public ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'on a envie d'investir un petit peu l'espace public. Mais il y avait aussi cette idée de comme un écrivain public, c'est-à-dire d'aller vers toutes les populations, d'aller vers les gens dans leur diversité, et de leur demander aussi, eux, ce qui les préoccupait et comment ils pouvaient mettre des mots sur ce qui les préoccupe, puisque l'époque est inquiétante, hein, on l'a dit, Céline a rappelé tout à l'heure le contexte, les attentats, la montée de l'extrême droite, etc. Donc le contexte est inquiétant, qu'est-ce qu'on peut faire de cette inquiétude ? Quels mots on peut mettre dessus ? Et comment est-ce qu'on peut, en formulant un petit peu mieux les problèmes et les concepts, comment est-ce qu'on peut avancer un petit peu vers une pensée un peu plus lucide ? Puisque finalement, ce monde, il est compliqué à penser, on a du mal à le penser. Nous-mêmes, on a du mal à le penser. Et dernier petit mot sur notre fonctionnement. Lorsque nous intervenons, alors partout où on nous invite, on peut intervenir, on intervient toujours à deux. Voilà, pour que justement, il n'y ait pas la parole du philosophe, entre guillemets, ou du prof de philo qui aurait une parole d'autorité qui sortirait comme ça, d'on ne sait où, mais montrer qu'en fait, cette parole publique, elle se construit.
Oui, aussi parce qu'on part du principe qu'on a gagné à ces échanges, et puis parce qu'il y a un pari initial qui est que quiconque peut prendre confiance en sa réflexion dans la pratique de la philosophie, et que nous sommes tous armés pour réfléchir et pour avancer ensemble sur ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la possibilité de vivre ensemble dans la cité. Donc ce pari-là, il est tout à fait aussi fondamental, c'est-à-dire sortir de nos classes, c'est pas parce que l'expérience à l'intérieur de la classe est une expérience malheureuse, il s'agirait plutôt d'une expérience heureuse, de la rencontre, mais qui voudrait se prolonger hors de la situation de classe pour favoriser l'échange ou le dialogue dans la cité.
Oui, et je crois qu'on peut aussi ajouter que finalement il y a une grande confiance dans la philosophie elle-même, ce qu'on éprouve en classe, sans dire bien sûr que ça a réussi à chaque fois, mais quand même il y a une qualité d'écoute qui est la condition donc de la parole et de cette construction collective. Ça ne veut pas dire qu'on arrive tous aux mêmes conclusions, mais en tout cas ça signifie et ça implique que chaque parole participe à la clarté des mots et de ce à quoi ça renvoie, et que tout seul on n'arrive à rien du tout. Et moi il me semble que je me suis, enfin qu'on sait si je peux généraliser, mais qu'on s'appuie sur ce qui est parfois vécu en classe avec l'espoir et que ça puisse se faire en dehors de la classe. Mais bien sûr que le socle commun c'est cette expérience philosophique, bon, qui est notre formation mais qui ne nous appartient pas. Voilà, donc là on l'a expérimenté par exemple dans la rue. Et c'est étonnant de voir comment, au milieu du bruit de Marseille, de la Canebière, mais la philosophie, elle crée une sorte d'espace à la fois petit et grand, mais en tout cas petit au sens d'intime, dans un échange qui porte bien sûr pas sur nos individualités, mais qui porte sur qu'est-ce que vivre ici dans un même espace et puis après dans un même monde. Voilà, donc c'est peut-être ce désir de sortir grâce à la philosophie dans d'autres espaces, mais avec elle.
Oui, il y a aussi ce hors-champ de la classe qui est la cité, en fait, hein, dans laquelle nous évoluons tous, nous sommes partie prenante. Personnellement, moi, on diffuse à nos élèves de la pensée et on ne sait pas souvent ce qu'elle va devenir, en fait. On les lâche quand ils ont commencé à comprendre de quoi on leur parlait. Et après, on peut les retrouver dans la société civile ou on peut les retrouver. Et l'occasion d'aller dans la rue, justement, c'est l'occasion de voir comment la philosophie agit aussi, parce que malgré tout, on avait le sentiment qu'elle était absente, mais des discours politiques parfois ou médiatiques. Mais dans les gens qu'on rencontre, il y a de la pensée et c'est justement dans ce partage ou dans cette idée de cela communiquer, de l'exprimer, de la verbaliser, d'en prendre soi-même conscience, même du point où on en est, qu'il y a des expériences extrêmement riches. Et pour nous, en tant qu'enseignants en plus, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement formateur pour nous aussi.
Et puis après tout, la philosophie a toujours eu vocation a existé dans la cité. Enfin, on n'a quand même pas inventé, la figure de Socrate, hein, qui a toujours existé sur l'agora, hein, sur la place publique. Donc, elle retrouve un peu sa place naturelle. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que nous n'avons pas non plus vocation à dispenser des savoirs que nous aurions concoctés de manière privée, dans des discussions ou dans des pensées que nous aurions élaborées. En fait, l'activité de ce collectif est réellement celle qui consiste à construire des contenus dans l'échange. Et donc finalement, il n'y a pas de message doctrinal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie que nous dispensons, mais nous construisons le sens commun en commun. Et par conséquent, on voulait donner un sens fort à cette communauté qui est celle de la police, de la cité, de la ville, donc Marseille en l'occurrence.
Et pour revenir à ce que disait Samy aussi à l'instant, sur l'idée d'agir, de parler, enfin, c'est vrai que spontanément, on a eu d'ailleurs ces réflexions-là, on dit bon, mais finalement, on va que parler avec vous, donc c'est comme ça, il y a des préjugés sur cette idée qu'il y aurait d'un côté les actions et d'un autre côté les paroles, alors qu'en réalité, bon, l'exemple, c'est Anna Arendt qui le donne, mais si là, d'un coup, je me levais de ce studio de Radio Grenouille et que je partais sans dire pourquoi, ça serait même pas une action, puisqu'elle n'aurait pas de sens, puisqu'elle serait pas accompagnée de paroles. Et déjà, faire prendre conscience que se parler, c'est déjà un acte, et que surtout se parler en faisant un minimum, je dirais, d'analyse de ce qu'on dit, de métadiscours, ce qui est un peu le propre de ce qu'on fait, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qu'il y a derrière les concepts et derrière les mots. Moi, parmi les choses qui m'ont donné envie de participer à ce collectif et de l'inventer avec tous mes collègues, c'est cette idée qu'aujourd'hui, dans le discours politique dominant, dans un discours médiatique dominant, on a des mots qui sont utilisés comme s'ils avaient un sens univoque, sans qu'on explicite d'ailleurs clairement ce sens, et qui sont posés comme ça, ces mots, comme de renvoyer à des essences éternelles. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça va être l'islam, la laïcité, l'identité, hein, il paraît que ça va être les grands thèmes de la campagne à venir. Et ces mots, ceux qui les utilisent comme ça sur les tribunes donnent l'impression qu'ils ont un sens figé pour l'éternité, qu'il est clair et qu'il suffit d'en parler pour qu'on sache ce que c'est. Et nous, on a juste envie de déconstruire, en fait, de faire un petit peu de déconstruction conceptuelle, mais encore, comme disait Ronald à l'instant, on ne peut pas venir avec un court tout prêt en disant on va déconstruire le concept d'identité, mais en interrogeant les personnes qui sont en face de nous, en travaillant avec elles, de voir justement que les concepts, c'est plus compliqué et que si on fait un usage un peu plus fin des mots, un peu plus lucide, ben on est moins, a priori, on est moins manipulable. Et ce travail-là aussi, on s'est posé la question aussi dès le départ de savoir avec qui on allait le faire, puisque on a besoin de tout le monde, en fait. On a besoin de tout le monde, on a besoin des gens qui sont sur le terrain, je dirais, enfin, qui vivent les situations, voilà, donc qui vivent les situations. On a besoin aussi des sciences humaines, on a besoin aussi d'autres disciplines. Donc au départ, d'ailleurs, on s'était demandé est-ce qu'on crée un collectif de professeurs de philosophie, ou bien est-ce qu'on crée un collectif plus large? Et puis, pour différentes raisons, c'est-à-dire, si on veut avoir une spécificité, si on veut être identifié en tant que tel, il est peut-être plus intéressant qu'on se présente en tant que professeur de philosophie, avec aussi l'idée que les gens ne savent pas forcément ce que c'est la philosophie. Parmi les gens qui viennent vers nous, il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais fait, ou qui en ont fait il y a très longtemps, qui en ont une image. Et nous non plus, d'ailleurs, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Et puis, c'est aussi en discutant entre nous que petit à petit, on définit cette manière-là de faire de la philosophie, qui est une philosophie incarner une philosophie au contact, une philosophie dans la cité, quoi.
Oui, je suis bien d'accord. J'ajouterais quand même que, enfin, de mon point de vue, déconstruire les préjugés, c'est aussi défaire les ségrégations. C'est aussi essayer d'en finir, alors bon, sans garantie de résultat, bien sûr, hein, mais essayer d'en finir avec les discriminations, essayer d'en finir avec les exclusions. C'est-à-dire que l'urgence dont nous parlions tout à l'heure aussi, elle procède de ce sentiment que monte en ce moment les discours qui excluent, qui augmentent tout ce qui sépare, tout ce qui nous fait cesser de vivre ensemble. Et donc la déconstruction ensemble du préjugé, c'est aussi le renouer la possibilité d'une parole. Voilà, je reviens sur ce sens commun que nous aurions à trouver, à construire ensemble.
Juste pour prolonger ce que tu dis, Monique, c'est très important ce que tu dis, parce que ça prolonge aussi ce qu'on fait en classe, parce que finalement, quand on est en classe, on a aussi des très jeunes gens qui viennent parfois de milieux très populaires, qui n'ont pas un capital culturel forcément très important. Et ce qu'on a à faire aussi, je crois que c'est ce que tu voulais dire, c'est restaurer aussi l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes en tant que sujet pensant. Parce que finalement, le monde est devenu difficilement pensable pour tout un tas de raisons. Et puis, puisque cette année a été marqué par les attentats aussi, parce que les affects nous submergent parfois, hein, et c'est aussi ça qui le rend impensable, c'est que juste après un attentat ou juste après un acte violent, voilà, on a du mal à reprendre cette pensée un peu lucide, un peu sereine, un peu construite, parce qu'on est sous le coup des affects. Et ce travail-là qu'on fait avec les élèves, il est très important, parce que justement, c'est montrer que ce monde, d'abord, il est difficile à penser pour tout le monde. Il n'y a pas d'un côté des gens qui arriveraient parfaitement à penser le monde et d'autres qui n'arriveraient pas à le penser. Et que ce travail-là, il est à faire ensemble. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, mais nous sommes ici à la friche de la Belle de Mai. Et tout à l'heure, Céline disait que notre collectif Les Philosophes Publics s'est enraciné dans un autre collectif qui est un collectif purement pédagogique et de réflexion sur le travail pédagogique avec les élèves, qui s'appelle le Réseau Philo. Et le hasard a fait que nous avions une réunion à la friche de la Belle de Mai qui était programmée de longue date le 14 novembre 2015. Et le 14 novembre, c'était le lendemain du 13, évidemment. Et effectivement, quand nous sommes arrivés là, à la friche de la Belle de Mai, on était tous... Ah oui, j'ai bien compté, hein. 14 moins 9, c'est bien 13. Et on était tous submergés, on ne savait pas quoi dire, on ne savait pas ce qu'on allait dire le lundi d'après à nos élèves, etc. Et c'est justement, en fait, on est passé d'un état d'abattement, comme ça, de sidération, et par le travail collectif, par le travail des ateliers, par l'intelligence collective, on a réussi à construire quelque chose, et on a réussi notamment à se dire que ce qu'on allait lire le lundi justement aux élèves, c'est que cet événement-là, on n'avait pas les clés pour leur dire comment il fallait le penser, mais que tous ensemble, on pouvait au moins, par exemple, essayer d'identifier les mauvaises manières de le penser, enfin, ou les manières de le penser qui pouvaient, en germe, contenir de nouvelles violences, en tout cas.
Il me semble aussi qu'on essaye de casser l'idée qu'il y ait de la verticalité. Enfin, l'image qu'on utilise souvent, c'est celle d'horizontalité. D'abord dans le collectif sur le mot pédagogie, moi parfois j'ai peur qu'il soit mal compris, mais je crois que c'est surtout une réflexion sur, ça veut dire ça, mais en tout cas on prend dans ce sens-là, une réflexion sur nos propres pratiques. Et mettre au jour à la fois des échecs, des choses qui fonctionnent, et aussi partir de cette idée importante que rien n'est figé et que tout se fait effectivement en parlant. Et effectivement, cette horizontalité, c'est de dire qu'il n'y a aucune parole qui vient d'en haut. Et là, on surprend parfois, puisque la philosophie n'est pas forcément là où on l'attend, ou là où on croit qu'elle est, elle n'apporte pas en fait quelque chose qui vient du haut. Elle part vraiment de cette mise en commun, de cette mise en épreuve, du non-savoir, de l'absence de certitude. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à rien, mais ça veut dire en tout cas qu'on accepte de ne pas être dans la position de la toute-puissance. Or, quand on écoute les discours qui inondent ces derniers temps, tout le monde sait mieux que tout le monde, et en fait, il n'y a plus d'espace, on étouffe, on n'arrive plus à parler. Voilà, donc là, ça rejoint un motif très très personnel, mais moi j'ai besoin qu'on me remette en question, j'ai besoin de sortir de mes habitudes, d'où le mot important de collectif. On n'a pas de discours unique, on a un discours pluriel. Et la pluralité, c'est pas l'absence de cohésion, c'est une nourriture qui sans cesse est mise au travail. Alors parfois c'est soi-même, tout seul, ça nous remet au travail, parfois c'est ensemble. Et c'est peut-être changé, c'est peut-être un peu... Mais en tout cas, il y a un paradigme de notre société en ce moment qui ne fonctionne plus. On étouffe cette parole plus horizontale, au nom de savoir tout puissant.
Oui, c'est un peu l'idée, je reprends ce que dit Céline, mais c'est un peu l'idée aussi qu'on avait juste avant de commencer cette émission. De cette petite distinction que je proposais entre penser ensemble et penser en commun, quoi, ou penser commun. Et penser ensemble, ça ne veut pas du tout dire justement avoir une certitude, c'est au contraire accepter de remettre en cause ses propres certitudes. Et face au discours de l'autre, face à ses positions, face à des expériences qui sont différentes des nôtres, Et c'est extrêmement salvateur. C'est pour ça que on était un peu fatigué de l'idée, ce qu'on se disait, du vivre ensemble qui finalement commence à sonner creux. Parce que justement, on met tout et n'importe quoi dans ce vivre ensemble, alors que, et en plus, on essaie de mettre une pensée tout à fait commune, alors qu'au contraire, il faudrait accepter la pluralité, la diversité, etc.
Oui, pour aller dans le même sens, et même de manière concrète, parce que cette idée que l'autre nous aide à penser n'est pas une idée que nous présentons de manière artificielle. Par exemple, tout simplement, le fait de se retrouver ensemble au lendemain du 14 novembre nous a simplement permis, en tout cas c'est mon expérience, de trouver quelques ressources pour digérer le coup, ou en tout cas pour essayer de ne pas être affecté de telle sorte que voilà, ça nous paralysait et ça allait faire exactement le jeu du terrorisme. Mais en fait, c'est exactement cette expérience que l'on voudrait généraliser. C'est de trouver à plusieurs des solutions aux problèmes qui se posent à nous tous dans le monde contemporain, et à certains en particulier qui sont dépourvus peut-être de quelques outils bien utile pour penser ce monde. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui possèdent ces outils peuvent les mobiliser tout seuls, non plus. Donc la place de l'autre dans cet échange est absolument essentielle. Et dans ce sens-là, notre collectif est déjà à lui tout seul la preuve que ça se construit dans le partage. Et finalement, l'action qui mène à l'extérieur, c'est exactement la même que celle qui fonctionne déjà en son sein.
Oui, mais tu m'ôtes les mots de la bouche.
Non, par contre, juste, je voulais revenir sur la figure de Socrate que tu évoquais tout à l'heure. C'est vrai que bon, il y a quand même quelque chose de socratique dans notre démarche, sauf que comme on est très modeste, nous on est une petite vingtaine, alors Socrate était tout seul, justement parce qu'on se sent tout petit à côté de lui, mais il y a quand même cette idée, bon, d'une parole relativement désintéressée. Le débat public aujourd'hui est quand même de fait, parce que nous vivons dans une démocratie représentative, et qui plus est dans une année électorale, ben, le débat public, il est quand même souvent orienté vers arriver à convaincre des gens pour qu'ils votent pour nous. Alors nous, on insiste beaucoup là-dessus, et quand on va vers les publics, on est désintéressé au sens où on ne sert pas une idéologie particulière, comme le rappelait Ronald, au sens où on est bénévole, c'est un point important, au sens où on n'a rien à vendre, au sens où on ne vient pas comme ça pour on n'a pas intérêt à convaincre de quoi que ce soit. Le seul intérêt qu'on a, je crois, c'est un intérêt collectif à long terme, qui est un intérêt quand même égoïste, c'est de vivre dans une société la plus vivable possible, dans une société dans laquelle on peut partager des choses avec les autres. Comme tu le dis, Ronald, finalement, le collectif lui-même est un modèle de ce qu'on aimerait, diffuser autour de nous. Et ce mélange de désintéressement au sens premier est quand même de montrer que finalement, mieux comprendre le monde, mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre les enjeux, se défaire des différentes formes de manipulation, etc., d'idéologie, finalement c'est utile pour tout le monde. Voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est très important là-dessus. Je te donne la parole tout de suite, mais il y avait autre chose aussi, mais toujours dans le même état d'esprit, ce qu'on aimerait bien faire, alors bon, on a commencé à faire des choses, on en parlera dans la prochaine émission, ce qu'on aimerait bien faire, c'est aussi d'arriver à mixer un petit peu les publics. Voilà, c'est arriver, non seulement, tu le disais, à sortir un peu des ségrégations, mais aussi à amener les gens qui se regardent comme ça, de manière inquiète les uns les autres, de les amener à se rencontrer, à dialoguer, et ça nous paraît important aussi. Ronald.
Non, juste un mot. Ouais. Juste, je voulais dire que nous avons quand même conscience qu'on ne vit pas au pays des bisounours. Et que donc, il y a sans doute des gens qui partagent cette vision d'une société pacifiée où les échanges se font de manière amicale, et d'autres qui ne la partagent pas. Et donc, nous n'avons pas que des amis. Donc, notre activité n'est pas celle de conscience naïve qui pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, il faut quand même dire qu'il y a une adversité, que nous combattons cette adversité par nos moyens.
Et justement, c'est difficile finalement aussi de parler et de rencontrer des gens adverses ou ennemis, et que nos rencontres qui se sont faites, donc on en parlera plus longuement une prochaine fois, qui sont faites assez simplement, ce sont souvent des gens qui sont déjà disposés à parler. Donc c'est une vraie question, on essaye d'en débattre entre nous, mais comment aussi aller dans certains endroits qui sont verrouillés, qui sont, enfin, qui se mettent en dehors de la cité. Alors voilà, ça aussi, on aimerait bien ne pas vraiment aller discuter avec des gens qui peut-être partent du principe que tout est déjà joué, que finalement il y a des forts et des faibles, ou enfin, et c'est difficile là aussi de sortir de nos représentations. Après, on a, enfin, en tout cas moi j'ai tendance à croire que le plus grand intérêt, c'est l'intérêt pour l'universel, pour le monde, et il me semble que la démonstration en ce moment est permanente, enfin peut-être pas exhaustive, mais en tout cas elle revient souvent. Par exemple, une fois, enfin, on a fait un café philo, on en fait quelques-uns dans un quartier plutôt un peu privilégié de Marseille, et ce qui m'est apparu, enfin ce qui nous est apparu, c'est cette demande de gens qui avaient envie de sortir eux aussi de leur certitude à partir des attentats, et il m'a semblé que c'était des gens qui ne l'aurait pas fait il y a encore quelques temps, hein, donc évidemment que c'est aussi quelque chose, enfin c'est notre collectif est né d'un désir sans doute plus large, et on s'en est rentré dans ce désir-là.
Donc nous remercions Radio Grenouille de nous accueillir donc une fois par mois. Ça sera aussi une manière de parler de ce que nous faisons et de prendre conscience aussi peut-être ensemble de ce que nous faisons, et puis aussi peut-être de nous faire connaître auprès de gens qui voudraient nous faire intervenir, hein, en tant que philosophe public. Et donc dans la prochaine émission, justement, nous essaierons de détailler un petit peu des choses que nous avons commencé à faire, des actions que nous avons commencé à mener, notamment dans l'espace vraiment public, sur la Canebière par exemple, et puis aussi en milieu carcéral notamment. Voilà. Et donc merci à tous pour votre attention.